présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Lui demande, pourquoi n'es-tu pas prêt pour aller te battre?
Paris ne dit rien, et Thor lui dit,
serais-tu un lâche que tu préfères le lit au champ de bataille? Tu devrais avoir honte, alors que les autres se battent et même se font tuer pour toi à cause d'Hélène. Tu te prélasses dans ton lit. Allez mon frère, lève-toi et viens te battre. Cette guerre, c'est la tienne. Oui. Ou alors, tu arrêtes la guerre en rendant Hélène. Mais fais quelque chose, ne reste pas au lit. Debout, feignant, lâche. Oui, lâche, poltron.
Paris lui dit, je ne suis pas un lâche. Je me reposais seulement. Je me suis battu au corps à corps la dernière fois avec Ménélas.
Et Thor lui dit, tu t'es battu parce que je t'ai poursuivi et poussé à le faire. Autrement, tu t'enfuyais et c'est ce que tu as fait dès que tu as eu l'occasion de le faire.
Paris lui dit, ce n'est pas moi, ce sont les dieux qui m'ont porté dans mon lit pour me sauver.
Et Thor lui dit, je ne crois pas. Du tout à cette histoire digne des centaures.
Paris se dit, mais c'est ce que vont penser et croiront nos descendants.
Hector lui dit, oui, parce que nous ne pourrons pas croire à ta lâcheté. Allez, debout.
Si tu ne te lèves pas,
Alors de suite, j'appelle mes hommes et te mèneront à la bataille nu comme un ver. Tire les couvertures. Apparaît son frère et Hélène nus. Il dit à Hélène, vous devriez le faire aller se battre. C'est son rôle de vous défendre au lieu de l'enivrer dans l'ivresse de l'amour. Elle lui dit, je suis le repos du guerrier. Je suis une femme. Elle regarde Paris et lui dit, tu ferais bien de te lever et de suivre ton frère. J'irai sur les remparts voir vous battre. Il est jaloux, allez. Tu sais très bien que lorsque vous battez, il ne reste plus d'hommes dans la cité. De ne pas être jaloux de quelques jeunes garçons et d'esclaves, laids et mal éduqués. Elle l'embrasse sur le front et lui dit, hein? Allez, va faire ton devoir, mon chéri. D'ailleurs, je me lève. Et elle se lève. Elle est nue et fière de se montrer au bel Hector, mais Hector est fidèle à sa douce Andromaque. Il se moque de cette coquette sans cervelle. Paris se lève aussi. Plus tard, les deux frères s'en vont se battre. Hector se bat avec fougue et vaillance. Paris cherche à se défendre et non à se battre. Mais il est sur un champ de bataille. La bataille fait rage. Les chars foncent sur les chars. Au des corps à corps, de piques. Les piques entrent dans les corps et le sang gicle. Sur le corps, à la tête, dans la poitrine. Les armures ne protègent pas tout le corps et laissent la place aux piques. Les hommes ont les jambes et les bras nus. L'armure laisse des passages sur tout le corps. Ils ont des casques, mais qui ne protègent pas toute la tête. Les chars foncent l'un contre l'autre et se cognent. Les chevaux ruent et même tombent avec les chars. Dans la poussière, le sang, la chaleur, le soleil qui gêne la vue, les armures qui brillent, font refléter les rayons du soleil et empêchent de bien voir. La sueur colle le sang sur la peau et les manches. Le vent se lève et ça dérange encore plus. Ça empêche de voir. Sans compter le poids des armures et des armes. Une fois que l'on a été éjecté de son char, on se bat corps à corps avec des pinces, des piques, des haches, des chaînes, des couteaux, des épées. C'est très dur. Et l'on se bat au milieu d'une foule qui se bat. Une bataille, c'est des centaines, peut-être des milliers de corps à corps, les uns contre les autres. Et des fois, lorsqu'on se bat avec l'un, on se fait prendre par derrière, par un autre, qui vous transperce et vous tue. C'est aussi terrible de tuer. Oui, parce que pour tuer un homme, il faut s'y prendre à plusieurs fois, blesser plusieurs fois, couvrir la chair, voir le sang jaillir. Et même voir les entrailles sortir. Le plus terrible, c'est de trancher les têtes. Des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Tenez plusieurs coups dans le cou. Sans fin, elle quitte le corps. Elle vole et tombe plus loin. Le regard effrayé. Là, on voit à terre sa tête, la tête, avec de la chair, du corps. Le cou est déchiqueté. Il sort des nerfs, les veines toutes rouges. Le corps reste. Le cou est déchiqueté. Il sort des nerfs, les veines toutes rouges. Le corps reste un moment perdu, désemparé. Il est désorienté. On dirait même qu'il va avancer sur tous. Et tout d'un coup, il tombe. Il est tombé en terre, comme désorienté, avec un grand bruit. Vous, vous êtes plein de sang. Le sang a giclé lorsque la tête a été décapitée. On se bat entouré de bruit, de cris, de rage, de douleur. La bataille. Le monde n'est plus rien qu'un champ d'horreur, de douleur. Hector est un bon guerrier, il se bat courageusement et tue de nombreux Achéens. Les Achéens le redoutent et le respectent. Ménélas a retrouvé sa vigueur. Le désir de revoir Hélène lui a redonné la foule. Il y a aussi chez les Achéens les Ajax qui se battent bravement. Malgré les Ajax, Ménélas, Ulysse, cela n'empêche pas les Achéens de perdre des batailles. Leurs pertes sont de plus en plus importantes. Ils n'arrivent pas à s'approcher des murailles de cette ville. Agamemnon et démoralisé, se dit qu'il faudrait l'aide des dieux pour les sauver. Les guerriers, toute cette guerre pour rien. Et lui, qui s'était dit qu'il fallait être une guerre éclair. Mais qu'ai-je fait au Dieu pour que je sois dans cette impasse? La nuit, dans son lit de camp, il pense à ce prêtre qui est toujours près de lui et qui a tué sa fille. Il a envie de le tuer de ses propres mains. Mais il a peur que les dieux se courroucent de ce crime. Il a l'impression que le prêtre le nargue. Et dire que je suis obligé d'assister à ces cérémonies. Pendant que les hommes se battent la journée, Hélène se prélasse et cherche à séduire les jeunes gens qui sont restés avec les femmes puisqu'ils sont trop jeunes, mais juste en âge pour apporter le plaisir à Hélène. Longe les couloirs, et lorsqu'elle voit un jeune garçon en âge d'apporter du plaisir, elle l'attire chez elle pour un prétexte ou un autre. Elle voit un garçon en tunique blanche, courte, de 13 ans, cheveux bouclés. Elle lui demande « Est-ce que tu veux m'aider à déplacer mon lit ?» Le garçon est surpris. Elle lui dit, je te récompenserai, tu sais. Tu n'as pas envie de goûter à certains plaisirs? S'approche de lui et lui met la cuisse entre ses jambes. Le jeune garçon rougit et se met à bander. Sa tunique, il est nu dessous, et elle aussi. Les sous-vêtements, à cette époque, n'existaient pas, et la pudeur non plus. Le plaisir d'amour n'était pas un péché. D'ailleurs, péché, qu'est-ce que c'était? Ils n'auraient pas compris. Pour les gens de l'Antiquité, la seule faute, c'est de ne pas être brave, de manquer d'honneur et d'être fier de ce que l'on est. Rien de plus. Le bien, le mal étaient basés là-dessus. Donc, la belle Hélène prend la main du jeune garçon dans la sienne pour le mener à sa chambre. Il se demande un peu inquiet. Comment ça va se passer tout ça? Et en même temps, il est plein de désir. Cette belle femme, avec un corps superbe, long, mince, ses cheveux blonds, ses seins fermes, et le visage coquin. Une fois dans la chambre, elle lui dit « Voilà, C'est ce lit. Viens. Il s'approche du lit. Tout excité, tous deux. Et là, elle tombe sur le lit. Elle le fait tomber. Il est contre cette belle femme. Son désir est violent, mais n'ose bouger. Elle sourit, se soulève, lui enlève sa tunique et enlève la sienne. Il ne bouge pas. Elle lui caresse la poitrine. On entend le bruit de la guerre au loin qui a recommencé. Puis, elle lui prend la main et la dépose sur ses seins. Le jeune garçon perd conscience et ses mains se mettent à palper les beaux seins. Hélène sent son plaisir augmenter. Elle prend avec sa main son sexe qui bande et se le met. Pendant qu'ils font l'amour, on entend le bruit de la bataille. Hélène a été remarquée et l'on parle sur elle. Les jeunes garçons traînent dans les couloirs pour être remarqués par elle. Les gens qui ne l'aimaient pas déjà la traitent de putain et qui prend des presque enfants. Norisoukap, lorsque l'on croise Paris, Riyam apprend ce que disent les gens. Il est furieux, surtout à cause de Paris. Paris, à cause de sa femme, est ridiculisé parce qu'elle le fait cocu avec des jeunes qui sortent à peine de l'enfance. Il se dit qu'elle va trop loin. Putain. Un matin, il va dans leur appartement. Priam lui dit furieux, dites-lui qu'elle vient me rejoindre ici, c'est un ordre. L'esclave se retire. Puis revient avec Hélène en robe longue beige. Elle demande furieuse, pourquoi me faire venir ici, me lever? Il lui dit, vous restez au lit toute la journée? Je suis furieux contre vous. Vous oubliez, c'est que je suis roi. Et de celui qui vous héberge. Vous nous devez le respect et ne pas porter atteinte à notre famille. Comportement est inqualifiable. Vous comportez comme une prostituée et dans mon palais, dans le lit de mon fils, vous y amenez de jeunes garçons de la cour. Je ne veux plus que cela soit. Mon fils, à cause de vous, est la risée de tous. Vous devriez avoir honte de vous comporter comme ça. Alors que mes fils et toute la ville se battent pour vous. Je vais donner l'ordre. Je vous donne l'ordre de vous comporter comme une femme digne, au moins par respect pour ceux qui se battent pour vous. Il y a déjà des milliers de morts. Cette guerre dure depuis plus de 10 ans déjà. Vous devez respecter ces hommes qui se battent à cause de vous. Hélène Furieuse lui dit, s'ils se battent à cause de moi, je n'y suis pour rien. Priam lui dit furieux, eh bien, partez. Allez, retrouvez votre mari. Hélène lui dit, pourquoi est-ce qu'une femme aurait-elle à choisir à vivre soit avec son mari ou son amant? Pourquoi ne pourrait-elle pas choisir de vivre seule et libre? Moi, je veux être libre. Je ne veux ni mari ni amant. Mais vivre, Priam furieux lui demande. Eh bien alors, pourquoi vous êtes-vous mariée?
L'on m'a mariée.
Pourquoi avez-vous choisi mon fils?
C'est lui qui m'a séduite en faisant miroiter une vie de rêve dans cette ville où en réalité on s'ennuie à mourir.
Priam lui dit, eh bien, quittez tout ça.
Elle lui dit, vous savez bien que je ne le peux. Si je quitte tout, je retourne chez mon mari qui me fera vivre dans un endroit encore pire que celui-ci.
Priam lui dit, tant que vous vivrez ici, je vous demande de vous tenir comme il faut et non comme une putain.
Hélène Furieuse lui demande, pourquoi me traitez-vous de putain? Je n'ai pas de client, ne fais pas payer et je fais l'amour, c'est par plaisir, comme nous tous.
Il lui dit, et Paris?
Elle lui dit, Paris, à cause de la guerre, il est épuisé. Et puis, j'aime le changement.
Si vous ne changez pas d'habitude, je vais mettre un garde à votre porte et vous resterez dans vos appartements. Au revoir.
Et il la quitte. Chez Hector, ce n'est pas la même chose. Il mène une vie de famille simple et aimante. Sa femme Andromaque, aime son mari. Avant de partir, il embrasse sa femme et son fils tendrement. Il lui dit, « Je penserai à toi durant le combat. » Elle lui dit, « Protège-toi. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Que deviendrai-je sans toi? » Et le petit lui dit, ne te fais pas de soucis. Elle lui fait, cette guerre dure, voilà 10 ans, et j'ai peur, notre fils, enfant déjà, est né et n'a connu que la guerre. Il lui dit, ne te fais pas de soucis. Et puis, elle va bientôt finir. Les Archéens sont démoralisés. Les dieux sont avec nous. Et Achille ne se bat pas. D'ailleurs, pourquoi ne se bat-il pas? C'est étrange. Peut-être est-il malade ou blessé, mais ces hommes ne se battent pas non plus. Elle lui dit, c'est peut-être un piège. Il lui dit, non, je ne le pense pas. Achille est peut-être contre cette guerre. Il y est venu, mais en retard, et avant on ne l'avait pas vu. Alors, il lui dit, tant mieux qu'il ne se batte pas, parce qu'il se battra avec toi.
Tu es son égal. Il lui sourit. Ne veut pas lui dire qu'il lui est inférieur. Achille est le plus fort, mais lui est le plus près d'Achille. Il embrasse sa femme et son fils, puis part. Elle va passer la journée à prier les dieux pour qu'ils protègent son mari. Apollon et Aphrodite. Apollon et Aphrodite protègent la ville. Zeus laisse faire malgré qu'il préfère les Achéens. Mais Thétis, la mère d'Achille, lui a demandé c'est de donner une bonne leçon aux Achéens pour les punir de l'affront qu'a eu Achille. Zeus ne peut rien refuser à cette déesse qui est plus mère que déesse. Il la préfère à ses femmes et filles qui ne font que se chamailler et le désobéir. Et puis la seule doctrine morale, loi qu'ont ces dieux et déesses, c'est leur bon vouloir. La guerre continue. Les Troyens prennent de plus en plus de l'avantage et s'approchent des camps achéens, qui sont eux épuisés et démoralisés. Ils ont beau prier les dieux, faire des sacrifices, ils vont de défaite en défaite. Agamemnon voit que les combats se rapprochent de plus en plus des nefs. Ménès et les Achéens. Et si on les brûle, ils sont perdus, prisonniers, ils ne pourront plus à retourner chez eux. Ils vont être peut-être massacrés par les Troyens. Paris répugne à aller se battre. Hélène, pour se venger, parce qu'elle ne peut sortir de chez elle, Priam a mis un garde à sa porte, oblige son mari à aller se battre. Elle lui dit,
« Il faut que tu ailles te battre, si tu ne le fais pas. L'on va jaser, et c'est moi qui aurai le blâme. » Et puis, l'on se bat, c'est pour moi, c'est normal que tu y sois.
Il va de mauvaise grâce. Agamemnon a peur pour ses vaisseaux. Il faut absolument les défendre. Convoque Ulysse dans sa tente et lui dit
« Un danger terrible nous menace. Les Troyens s'approchent des vaisseaux et s'ils les brûlent, détruisent. Nous sommes perdus. Il faut absolument se défendre.
Alice lui dit,
nous faisons tout ce que nous pouvons, mais nos hommes sont épuisés.
Et nous nous reculons. Ces Troyens, on dirait que les dieux les poussent vers nous.
Gaminon lui dit,
j'ai pensé à une chose. Il faut qu'Achille nous aide. C'est vital pour nous. Va lui expliquer. Dis-lui que je lui offre tout ce qu'il veut. Même une de mes filles. La moitié de mon or, s'il le désire. Mais il faut qu'il nous sorte de cette menace.
Ulysse lui dit,
je ferai de mon mieux.
Ulysse va chez Achille. Achille qui n'a pas fait un geste pour aider ses frères. Il le reçoit dans sa tente.
Qu'as-tu à me dire ?
Ulysse lui dit,
Agamemnon te fait dire qu'il aimerait, c'est que tu nous aides. Nous sommes dans une position très critique pour nous. Les Troyens s'approchent de plus en plus des vaisseaux. Et s'ils les détruisent, nous serons prisonniers sur cette plage. Et l'on nous tuera. Il faut que tu nous aides à protéger les nefs. Il y va de notre vie à tous, même de la tienne.
Achille lui dit, ma vie se terminera ici.
Oui,
ici.
C'est écrit. Pense à tes compagnons, à notre peuple. Nous sommes épuisés. Nous ne pouvons plus nous battre. Vraiment nous battre. Nous ne pouvons plus défendre les nefs. On ne fait que reculer. Agamemnon est prêt à te donner tout ce qu'il a. Une de ses filles, la moitié de son royaume, tout. Alors,
Achille réfléchit. Et lui dit,
je ne veux pas me battre pour Agamemnon. Après ce qu'il m'a fait, l'humiliation qu'il m'a faite. Mais je veux bien que mes hommes se battent. Pétrope se battra à ma place. Voilà.
Je lui dis,
bien, merci.
Et il le quitte.
Il est déçu. Achille va seul voir Pétrope.
Il est près d'un feu de camp avec ses hommes.
Achille s'assoit près de lui et lui dit, j'ai décidé, c'est que tu te battes pour défendre les nefs. Je ne peux pas me battre moi-même après ce que m'a fait Agamemnon. Il lui met la main sur l'épaule et lui dit, ça m'ennuie, je ne peux pas faire autrement. Pétrope lui dit, je suis heureux que tu me permettes de me battre. N'aimais pas rester comme ça sans rien faire et voir mes hommes mourir et reculer.
Achille lui dit,
moi, ça m'attriste que tu ailles te battre et risques ta vie. Tu es mon seul ami, la seule personne que j'aime après mes parents. Tu as beaucoup manqué. Il embrasse Pétrope sur les lèvres et lui dit, viens, allons nous coucher.
Et ils vont dans la tente d'Achille. lendemain matin, après une nuit de caresses et pleine de douceur, ils se lèvent. Ils sont nus, revêtent leur tunique, ne se parlent pas, les corps ont suffisamment parlé. Après avoir pris leur repas, Achille dit à Pétroc, puisque tu vas te battre pour moi, à ma place, je vais te donner mon armure et mes armes. Ce sont des pièces qui m'ont été offertes par ma mère, qui les a fait exprès pour moi, pour me protéger. Si tu les mets, tu seras protégé toi aussi. Achille va prendre les armes et l'armure avec le casque, le tout en métal d'or, brillant comme le soleil. Il aide son ami à se vêtir et le mène à son char. Le char, c'est le char d'Achille, avec deux magnifiques chevaux blancs. La troupe d'Achille assiste au départ de Pétroc. On l'envie. Avant qu'il ne parte, Achille le serre contre lui et l'embrasse. L'embrasse sur les lèvres. Pétroc monte sur son char et s'éloigne. Sous les applaudissements des soldats. Lorsqu'il apparaît sur le char avec les armes d'Achille, le char et les armes d'Achille, les autres artilleriens croient que c'est Achille. Une immense joie remplit la foule de soldats. Les Troyens se demandent ce qui se passe. Ils croient voir Achille sur son char. Ils sont forts. Le seul qui se sent capable de lutter avec Achille, c'est Hector. Il va droit à Achille. Hector voit que ce n'est pas Achille, mais Pétroc. Pétroc qui a les armes d'Achille. Tant pis, il doit le tuer. Hector fonce sur lui. Se font face. Les deux chars se croisent, se cognent et se renversent. Pétroc se relève. Hector aussi. Ils ont leur pique. Ils se font face. Et tournent en se poursuivant. Pétroc s'apprête à lancer son pique. Mais ébloui par les rayons du soleil qui se reflètent sur l'armure d'Hector et rate son coup. Hector, lui, lance son pique. Il a touché la cuisse. Et demain, il réussit à se l'enlever. Il s'en gicle. Une très grande douleur. Hector s'approche de lui. Pétroc se retire. Prend son poignard. Hector aussi le sien. Les deux hommes se font face. Ils ont chaud. Le soleil est éblouissant. Et les deux hommes, en tournant toujours, en se poursuivant, Petrov a toujours le soleil qui l'éblouit. Les deux combattants essayent de se donner des coups. La lame de couteau d'Hector éblouit Petrov, qui recule et tombe à la renverse. Il a cogné une pierre. Hector tombe sur lui. Et lui donne un coup à la gorge. Le sang gicle. Petrov n'a vu qu'une voix, qu'une lame éblouissante. Avant de mourir, il dit: c'est pas toi qui m'a tué, mais Apollon. C'est Apollon. Achille me vengera. Il te tuera. Et il meurt. Ils sont battus tous les deux devant les soldats. Les deux parties. La consternation est terrible chez les Achéens. Lorsqu'Achille apprend la mort de son ami, il est effondré. Il apprend que c'est Hector qui a tué son ami. Achille doit le tuer. Il va s'éloigner des hommes, se mettre sur son rocher qui domine la mer. Il s'assoit tristement. Il dit: mais c'est le moment que tu viennes près de moi. Je suis seul face à mon destin. Sort de l'eau, sa mère qui marche sur l'eau et va s'asseoir près de lui.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.